Faute de main-d'œuvre suffisante pour ses usines, Holimel a annoncé la réduction de presque 20% de ses abattages, mesure qui s'appliquera vers le mois de mars 2022, à moins que, miraculeusement, Québec et Ottawa cessent très rapidement de tergiverser et autorisent l'arrivée sans délai de milliers de travailleurs manquants. Mais cela apparaît peu probable. Québec craint une réaction négative de l'électorat à une ouverture plus large aux travailleurs étrangers et à l'immigration en général, tandis qu'à Ottawa, on a encore des problèmes informatiques. Bon, quoi qu'il en soit, les éleveurs de porc du Québec font les frais du manque de main-d'œuvre sur leurs fermes, mais surtout dans les usines de transformation. Je me suis entretenu avec le président des éleveurs de porc du Québec, David Duval. Monsieur David Duval, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Duval, la situation dans le secteur porcin, là, c'est assez stressant encore.
C'est deux années stressantes qu'on vient de passer pour les producteurs, avec des très grands moments de détresse par bout. Je dirais qu'au printemps, on était sur une bonne lancée de penser que cette année serait une très bonne année pour nous parce que les porcs en attente, l'impact qu'il y aurait eu d'avoir de l'euthanasie dans nos troupeaux, tout ça était passé, était derrière nous. La grève est arrivée. Ça a ramené des douleurs de l'année passée là, au niveau des producteurs. Et avec les annonces qui ont été faites dernièrement par Holimel de réduire la production, alors nous autres, on a à gérer une décroissance.
Donc, est arrivée la grève chez Holimel à Vallée-Jonction. Et ça, là, ça a donné le coup de grâce. Là.
C'est clair. Les producteurs étaient en bonne voie d'éliminer les porcs en attente pour cette année. Et c'était leur principal stress qu'il y avait eu durant l'année passée. Alors, avec cet impact-là au niveau d'une grève où il y a 35 000 porcs par semaine qu'il a fallu disposer à différents endroits, et ça a amené une augmentation du poids qui, pendant tout l'été, a perduré pour énormément de producteurs. Et ça a créé, comme vous l'avez dit, un stress énorme.
Il y a combien de porcs en attente encore? Parce qu'on a les répercussions de tout ça, là, maintenant.
Oui. On a monté tout près de 200 000 et là, on est rendu à 125 000 porcs, là. On met beaucoup d'efforts avec Holimel en payant des détournements, en payant pour diminuer leur valeur ajoutée, là, au niveau de leurs porcs pour que l'usine tourne plus rapidement. Les usines d'Holimel tournent plus rapidement. Et ça amène justement qu'il y a une augmentation au niveau de la capacité pour, pas de la capacité, mais du nombre de porcs abattus à chaque semaine. Et il y a une baisse qui se fait. Notre enjeu, c'est de le baisser au maximum avant la période des fêtes, parce que la période des fêtes amène toujours l'équivalent d'une semaine d'abattage d'arrêt. Et ça peut être aux alentours de 100 quelques mille porcs là, qui peuvent se retrouver rapidement sur des porcs en attente.
Donc, comme on le disait au départ, ça demeure très préoccupant, là, ne serait-ce que de gérer cette question des porcs en attente.
C'est clair. Mais c'est toujours moins stressant, et je le dis comme ça, là, la période d'hiver est une période moins stressante par rapport aux chaleurs, aux canicules, parce que on est capable de climatiser les animaux plus facilement, mais c'est l'entassement qui devient le facteur de risque. Et les producteurs voient aussi les prix baisser. Ils voient qu'ils ont de l'inventaire dans leur ferme, ils ont de la misère à payer leur compte de moulé. Ça aussi, ça amène un plus sur le stress qu'ils ont à vivre là, présentement.
Donc, la rentabilité est affectée.
La rentabilité a été affectée cette année. Une année qui aurait dû être, somme toute, très, très bonne pour les producteurs, a été relativement normale avec un léger bénéfice. Là. Mais on attend toujours ces années-là avec intérêt parce que c'est des années qui ne reviennent pas systématiquement à chaque année. Ça revient à, on dirait, un cycle de 3, 4 ou 5 ans. Et là, on vient de le passer. Là.
Tout ça dans le contexte où Holimel, vous l'avez dit au début, va réduire ses abattages. 10 % 15 % de réduction?
Pour le Québec, c'est 15 000 porcs de moins par semaine.
Près de 20 %.
C'est ça, oui.
Ça veut dire quoi, là? Dans les élevages, vous avez déjà commencé à réduire le cheptel?
Non. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a déposé un grief parce qu'ils importent quand même des porcs de l'Ontario. Et s'il n'y aurait pas l'importation des porcs de l'Ontario, qui ont été importés à travers le temps pour aider justement les structures d'abattage de Holimel à être complètes, vu que là, il y a la fermeture du secteur d'abattage à Princeville, bien, nous, on dit qu'il n'y a plus d'intérêt à importer des porcs de l'Ontario. Et à partir de là, vous devriez prioriser les porcs du Québec. Surtout que tout le monde sont là. On veut priorité Québec, on veut l'achat au Québec. Et les centres de distribution, Loblaws, IGA, Métro, tous disent qu'on veut vendre du porc du Québec. Et ils vont continuer à importer du porc de l'Ontario. Ça amène aussi un stress au niveau des producteurs. Parce qu'on a toujours été là pour nos structures d'abattage, on s'est mis dans notre convention l'obligation de vendre nos porcs au Québec avant de les vendre n'importe où à travers le Canada ou aux États-Unis. Et ça, à travers les années, on a eu des périodes où ce qu'on aurait pu le faire et on aurait eu des gains. Non, on a décidé de le vendre au Québec, on a décidé de continuer à vendre au Québec. Et ça, je dirais que c'est une claque en plein visage que les producteurs ressentent, qui m'appellent et qui m'interpellent par rapport à ce...
Vous visez et vous priorisez le marché québécois. Vous souhaiteriez que les abatteurs fassent de même?
Bien, ce serait la première logique parce qu'on est là pour créer de la valeur. Et la valeur, là, c'est pas de transporter des porcs et de les amener en Alberta pendant qu'il y a des porcs de l'Ontario qui vont venir ici se faire abattre, là. Il y a une incohérence dans ce message-là. Alors, c'est sûr que pour nous, là, faut arriver à s'entendre avec Olimel pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Alors, comme je l'aurais dit, si les porcs de l'Ontario ne viendraient pas au Québec, il y aurait très peu de stress pour les producteurs. On aurait à restructurer nos bâtisses, mais il y aurait peu d'impact par rapport à une diminution. Si les porcs de l'Ontario continuent à rentrer comme ils rentrent là et comme ils l'ont annoncé à Olimel qu'ils voulaient continuer, c'est sûr qu'il va falloir gérer une décroissance au niveau de la production et une décroissance par rapport à du monde qui vient d'investir, surtout des jeunes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient, eux autres, extrêmement stressés par rapport à ça parce qu'ils ont investi pas des centaines de milliers, mais des millions de dollars dans leur bâtiment pour les mettre aux normes, pour amener le bien-être animal et faire les investissements qu'il fallait pour être, mettons, rentable à travers le temps, être concurrentiel à travers le temps. Et aujourd'hui, on leur dit, il va falloir que tu diminues ta production, sinon l'arrêter.
Il n'y a pas d'entreprises qui peuvent prendre la relève de l'IMEL. Il n'y a pas beaucoup d'abatteurs au Québec, là, mais est-ce qu'il y en a quand même? Je pense au groupe Mario Côté qui veut augmenter ses productions. Est-ce que ça peut être une partie de la solution, ça?
Non, pas pour l'instant. Premièrement, au niveau de la transformation, il y a une concentration au niveau de l'abattage et de la transformation. Et un joueur qui arrive sur le marché, qu'il soit riche ou pas riche, il va avoir extrêmement de misère à se faire une place. L'abattoir CBCO est un abattoir principalement détenu par trois actionnaires qui ont déjà des parts chez Olimel qui vont sûrement les transférer dans cet abattoir-là. Alors, il n'y aura pas vraiment de place pour aucun producteur au Québec, là. Mais si, oui, il y aurait une augmentation au niveau de la main-d'œuvre et que le transfert de ces parts-là qui sont présentement chez Olimel s'en irait plus rapidement chez CBCO, ça pourrait laisser une certaine partie de place à des producteurs qui sont indépendants ou qui ne font pas partie des réseaux de l'IMEL.
Mais s'il y avait, par exemple, un autre gros joueur là, qui s'installait au Québec, ça pourrait aider?
Moi, je dis toujours que la concurrence est un facteur de réussite parce que ça nous amène toujours à être meilleurs. Et c'est sûr que malgré le temps, la concentration des structures qui sont là, des fois, je dirais que je souhaiterais qu'il y ait une meilleure concurrence parce que ça les amènerait à toujours être plus proactifs et à être meilleurs et avoir une relation aussi différente avec leurs producteurs. Parce que quand un transformateur détient 80 % du marché, il y a beaucoup de choses qui sont comme acquis. Et je souhaite sincèrement que la nouvelle direction générale au niveau de l'IMEL ait une attention à ça et on va être là pour collaborer, comme on l'a toujours fait. On l'a toujours été collaborateur dans toutes les discussions qu'on a eues avec nos transformateurs et je le souhaite qu'on soit encore plus pour les prochains défis qu'il va y avoir.
Bien sûr, vous l'avez abordé brièvement, là, mais la question de la main-d'œuvre, c'est le problème crucial, là. C'est le problème de base là, actuellement. Là. Si on avait de la main-d'œuvre, autant sur certaines fermes où on cherche de la main-d'œuvre que dans les entreprises d'abattage où on cherche des milliers de travailleurs.
Et je vous dirais que c'est un enjeu qui aurait dû être pris en main par le gouvernement provincial beaucoup plus rapidement et il aurait dû avoir une meilleure compréhension. À travers le temps, là, ils l'ont compris. Ils ont fait des gestes cette année. Dernièrement, ils ont fait des gestes par rapport à des bouchers industriels qui sont les travailleurs qui travaillent surtout dans les abattoirs. Ils ont fait des gestes pour les amener plus rapidement. Mais ça fait au-dessus de 2 ans qu'on leur dit de le faire. Le gouvernement fédéral était prêt à accepter le fait qu'on accepte plus de bouchers industriels avec des travailleurs étrangers. Ils ne l'ont pas fait au provincial. Aujourd'hui, ils l'ont fait, je les remercie grandement. Mais il va falloir être beaucoup plus proactif parce que ce n'est pas une pénurie ou une rareté. Là. On n'en a pas, il n'y en aura plus. Dans le secteur agricole où ce que je me trouve, moi, au niveau de production, si je n'aurais pas eu les travailleurs étrangers, c'était la fin de l'agriculture au Québec. Une partie de l'agriculture au Québec était terminée. On n'aurait pas pu continuer sans ces travailleurs-là. C'est 17 000 travailleurs étrangers qui viennent ici travailler sur nos fermes. Et ça, dans le secteur de la transformation, c'est la même chose qui est annoncée. Ça fait plusieurs années que je le dis, c'est annoncé. On le voit, c'est gros. J'ai pas besoin d'avoir une boule de cristal ou d'aller me faire tirer aux cartes. C'est clair que ça s'en va là. Alors, Moi, je souhaite sincèrement que le gouvernement réalise que, et ce ne sera pas des salaires à 100 000, c'est clair, mais c'est la même chose que mon secteur. C'est le même défi que j'ai avec mon secteur. Le secteur agricole est un secteur économique à haute valeur ajoutée. Il faut le maintenir, il faut l'aider à progresser.
Et si on revient spécifiquement au secteur de l'abattage, c'est beau, on a sur papier autorisé maintenant davantage la venue de coupeurs de viande, de bouchers industriels, mais entre le papier, la liste des métiers maintenant autorisés à augmenter le volume d'immigration et la réalité, bien, il y a tout un délai, là. Et comme vous le disiez, il faudrait que la machine s'accélère.
C'est clair, l'annonce a été faite depuis plusieurs semaines, qui augmentait de 10 à 20 %. On n'a pas encore les documents qui nous permettent de les faire venir, ces travailleurs-là. Ça fait plusieurs semaines que c'est annoncé, que c'est officiel. Et la machine n'arrive pas à mettre les papiers en place, les documents, les formulaires pour les faire venir. Moi, je parlais avec les gens de l'IMEL. Ils ont tout près de 500 personnes qui sont déjà promises à venir ici. Ils attendent juste de recevoir le document pour pouvoir les faire venir. Mais ça, c'est pénible. C'est pénible. Ce fonctionnariat-là est pénible pour les producteurs.
Et il y a les petites difficultés, appelons ça comme ça, entre Québec et Ottawa.
Là. Il y a une guerre entre les deux, là, une chicane de clocher qui, selon moi, c'est nous qu'on fait les frais de cette chicane-là. Et j'espère qu'à un moment donné, ils vont avoir la réalisation de dire que, mettons de côté nos chicanes politiques, là, et pensons aux producteurs agricoles en premier, là, c'est eux autres qu'il faut aider, là.
Monsieur David Duval, merci beaucoup.
Merci.
Ici Lionel Levac. Lors du récent congrès général de l'Union des producteurs agricoles, le président sortant, Marcel Groslot, s'interrogeait publiquement sur le rôle que pourrait ou devrait jouer Solio, groupe coopératif, auprès de sa division Olimel pour l'amener à plus de solidarité à l'endroit des éleveurs de porc. Au revoir.